Bonsoir à tous. Des milliers de milliards d'euros, toujours bien au chaud dans les paradis fiscaux. Malgré les scandales des dernières années, l'optimisation fiscale se porte bien. Ce sont les dernières révélations du consortium de journalistes dont Radio France fait partie. Encore une longue liste dévoilée aujourd'hui. Le roi de Jordanie, le président du Kenya, l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. On s'arrête dans ce journal sur les affaires de Guy Forget, le patron de Roland Garros, côté français donc. Dans l'actualité, encore les pluies dans le sud de la France. La vigilance redescend de rouge à orange dans les Bouches-du-Rhône. On fera le point sur la situation. L'Agence européenne du médicament approuve le rappel vaccinal pour les plus de 18 ans. Le procès de l'habitat indigne, un vaste réseau de marchands de sommeil. Nous serons à Lyon. Et puis cette panne massive, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, les réseaux sociaux de millions d'utilisateurs plantés. Ce soir, l'action de Facebook chute déjà en bourse. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, place aux jeunes avec le sondage Ipsos Soprasteria pour France Inter qui nous occupe depuis ce matin et nous dit que les 18-29 ans veulent participer à l'élection présidentielle. Ils ont des attentes vis-à-vis du futur président ou la future présidente. En revanche, chaque candidat ou potentiel candidat est très mal noté. Personne n'a la moyenne, mais attention, abstention ne veut pas forcément dire désintérêt, c'est même peut-être tout l'inverse. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il a fallu fouiller dans près de 12 millions de documents confidentiels tirés des archives de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore dans les paradis fiscaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ère de la transparence est encore loin. Des petits arrangements pour acheter un immeuble, une villa sur mer à Malibu, un château dans le sud de la France et éviter la case impôts. Un roi, 7 présidents, 4 premiers ministres en exercice sont cités dans cette vaste enquête du Consortium international des journalistes. Liste d'investigation dont vous faites partie pour Radio France. Abdelhak El Idrissi, bonsoir.
Bonsoir.
Côté français, vous nous apprenez ce soir que Guy Forget, le patron de Roland Garros, a aussi eu recours jusqu'en 2016 à une société écran basée aux îles Vierges britanniques.
Oui, alors dans cette affaire, Guy Forget a manqué de chance, on peut dire, parce que sa société offshore apparaissait déjà dans les Panama Papers, mais à l'époque, personne ne savait qui se cachait derrière. Et même dans les Pandora Papers, on a eu du mal à l'identifier. Il a fallu qu'on tombe sur un document datant de mars 2016 pour qu'on découvre le nom de Guy Forget. À ce moment-là, un cabinet demande la dissolution de sa société et donne le nom du bénéficiaire réel, mais aussi le montant des sommes qu'il y avait en réserve de la société, près d'1,5 million d'euros.
Et comment il explique ça, Guy Forget ?
Alors, il nous a expliqué par écrit qu'il était résident suisse et qu'il était incompétent, je cite, en matière financière, juridique et fiscale, et que c'est pour cette raison qu'il a confié la gestion de ses intérêts à un cabinet qui s'appelle IMG. Chez IMG, c'est un certain Régis Brunet qui s'est chargé de ses affaires. L'homme n'a pas souhaité nous parler, mais nous avons retrouvé cette archive dans laquelle il évoque sa relation avec Guy Forget.
Guy, ce que je peux dire, c'est que ça a été pour moi une totale réussite. Pourquoi ? Parce qu'on a tout fait ensemble. Pour moi, c'était en fait un business model qui était génial et une longue partie de mon business a été un succès grâce à lui.
Alors, je précise que nous avons également joint le cabinet IMG sur lequel nous a renvoyé Guy Forget. Mais IMG nous a soutenu n'avoir aucune trace de l'ex-société offshore de Guy Forget dans ses archives.
Merci beaucoup Abdelhak El Idrissi. Ces documents nous apprennent aussi que le roi Abdallah II de Jordanie a créé au moins une trentaine de sociétés offshore. Allégation déformée, répond son entourage. L'ancien premier ministre britannique Tony Blair est passé par une société des îles Vierges pour acheter un immeuble à Londres, économisant au passage 400 000 dollars d'impôts. Le président du Kenya est aussi cité, lui qui a pourtant fait de la lutte contre la corruption une priorité de sa politique. La boîte de Pandore, on le voit, est bien ouverte. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Alors il y a 5 ans, on était dans les Panama Papers, aujourd'hui les Pandora Papers. Tout ça nous donne l'impression que l'industrie offshore est toujours aussi florissante. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Eh bien disons que la situation reste navrante, alarmante. Ce que nous voyons là n'est pas petit, assure Pascal Saint-Amand, directeur de la fiscalité à l'OCDE. Mais selon lui, un énorme chemin a tout de même été parcouru depuis les premières fuites en 2007 et le scandale du Liechtenstein.
Ça peut donner l'impression que c'est un peu désespérant et que rien ne bouge. Et en réalité, quand on regarde de près, on voit aussi qu'il y a des progrès. Un peu plus de 110 milliards d'euros d'impôts ont été collectés sur des avoirs offshore au cours des 10 dernières années.
Et parallèlement, baisse de près de 500 milliards des dépôts d'actifs sur des comptes offshore, dit-il également. Les méthodes aussi ont évolué.
Il y a 15 ans, on pouvait faire de la fraude sans aucun problème. Aujourd'hui, ces personnes-là ont recours à des cabinets qui sont de plus en plus sophistiqués, mais aussi de plus en plus frauduleux ou à la limite de la criminalité.
En tout cas, si l'on devait prendre une image, celle d'un océan que l'on viderait à la petite cuillère n'est pas la bonne, il en préfère une autre.
On a vidé l'étang, si vous voulez, et il reste maintenant quelques problèmes qui sont significatif, notamment quand on voit les personnes impliquées, et qui vont nécessiter, à mon avis, davantage de police que de développer des instruments de coopération.
Instruments de coopération internationale, une police plus active pour avancer donc, et des scandales. Le rôle de ces révélations, conclut Pascal Saint-Amand, est également primordial. Eux aussi ont eu un impact. Ils ont contribué à faire bouger les choses.
Claire Chaudière, merci. Vous retrouvez évidemment un dossier très complet sur les Pandora Papers sur franceinter.fr.
Et à 19h06, Hélène, allons-y pour le rappel vaccinal.
La troisième dose pour tous les adultes de plus de 18 ans. L'Agence européenne du médicament approuve, craignant que la protection baisse après les premières injections. Une validation médicale donc, mais qui ne contraint pas non plus les pays, décrypte Odile Launay, infectiologue.
L'Agence européenne, après la FDA d'ailleurs, l'agence américaine, considère que les données qui sont aujourd'hui disponibles, à la fois en termes de sécurité et en termes de réponse immunitaire, c'est-à-dire de réponse en anticorps obtenue après cette dose de rappel, sont compatibles avec son utilisation. Mais ensuite, la recommandation elle-même de savoir quelle population aujourd'hui va bénéficier de cette dose de rappel, c'est chaque pays qui va la mettre en place. Et par contre, ces recommandations devront rentrer dans le cadre de l'autorisation, c'est-à-dire au moins 6 mois pour des populations immunocompétentes après les 2 premières injections. Et plus de 18 ans, puisqu'en fait les données qui sont aujourd'hui disponibles avec cette dose de rappel, c'est uniquement chez les plus de 18 ans. Et ça, ça va faire l'objet des recommandations qui devraient être bientôt faites par la Haute Autorité de Santé et la Commission Technique des Vaccinations.
Et la Haute Autorité de Santé qui, selon nos informations, devra rendre son avis d'ici à mercredi. Odile Launay, infectiologue, qui était au téléphone d'Hélène Chevalier. Et le Nobel de médecine a déjoué les pronostics. D'ailleurs, les spécialistes pariaient pour une récompense liée au vaccin ARN messager. Ce sont des experts du toucher qui ont permis d'améliorer les traitements antidouleurs qui sont sacrés, les Américains David Julius et Ardem Papapoutian. C'est un procès assez unique qui vient de s'ouvrir à Lyon. 14 prévenus accusés d'avoir loué clandestinement des dizaines de logements minuscules et délabrés. Un réseau de marchands de sommeil hors norme. Il y aurait près de 200 victimes. La métropole de Lyon elle-même s'est constituée partie civile. Mathilde Imberti sur place.
Selon l'instruction, le réseau amassait environ 500 000 euros de recettes par an en faisant tourner des salons de coiffure en banlieue lyonnaise. Jusqu'à 18 salons. À 10 euros la coupe et avec des employés souvent sans papier pour les effectuer. C'est cet argent que le principal prévenu, un homme de 37 ans arrivé de Tunisie il y a 20 ans, est soupçonné d'avoir réinjecté dans le rachat de pavillons et d'immeubles, transformés ensuite en minuscules logements insalubres. Il y a près de 200 victimes, des familles immigrées démunies et 3 collectivités se portent partie civile, dont la commune de Saint-Fons. Nathalie Frière en était le maire.
Pour moi, c'est pire que Zola, quoi. Enfin, très franchement, hein, j'ai vraiment vu des situations et vous ne pouviez pas rester dans l'appartement, si on peut appeler ça dans l'appartement, tellement c'était humide. Pas de sécurité électrique, c'était dangereux.
Le prévenu, allure élégante, très poli et volubile face au tribunal correctionnel. Il justifie chaque rachat de société, insiste sur son engagement. Je travaillais 18 à 20 heures par jour, 7 jours sur 7, j'ai investi en France. Il réfute le terme marchand de sommeil, son avocat Samir Driss.
Est-ce qu'acheter des studios pour les louer, c'est exploiter la misère? Non, c'est est-ce que les logements étaient dans des conditions qui étaient acceptables? C'est le point qui peut effectivement aggraver sa responsabilité qui est essentiellement financière. Dans le cadre de cette affaire.
La peine encourue va jusqu'à 10 ans de prison. Le procès va durer 2 semaines. Au palais de justice de Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et au chapitre judiciaire, la mort de Bernard Tapie éteint l'action à son encontre dans l'arbitrage controversé du contentieux Adidas Crédit Lyonnais. La cour d'appel devait rendre sa décision mercredi. Elle a décidé de la reporter pour les 5 autres prévenus, dont l'actuel PDG d'Orange, Stéphane Richard.
On surveille toujours le ciel et les cours d'eau dans le sud de la France.
Ça a été le branle-bas de combat aujourd'hui pour prévenir des orages qu'on attendait violents. Les écoles ont été fermées dans les Alpes-Maritimes. Le Var et les Bouches-du-Rhône ont aussi demandé aux parents de récupérer leurs enfants. Un quartier de Marseille évacué par précaution. Mais la vigilance vient de redescendre dans les Bouches-du-Rhône, de rouge à orange. Olivier Martoc, vous êtes en direct de Marseille. Olivier, quelle est la situation ce soir ?
Bien écoutez, depuis 16h, quelques averses parfois fortes, mais rien à voir avec les trombes d'eau de ce matin où il est tombé sur plusieurs communes du département. Plus de 200 millilitres en moins de 2 heures. Les images postées sur les réseaux sont spectaculaires. Égouts qui débordent, rues traversées par des torrents boueux, voitures bloquées sur l'autoroute avec de l'eau jusqu'aux portières, vieux ports qui débordent avec la mer à la hauteur des quais. Comme Météo France annonçait, une seconde vague orageuse d'une intensité au moins égale pour le début de l'après-midi. Des mesures exceptionnelles ont été prises dans l'urgence par les autorités, comme la fermeture des écoles et des facultés ou encore l'évacuation de la foire de Marseille à 14h. 500 pompiers ont été mise en alerte. À l'heure où nous parlons, même si des orages sont toujours en cours dans le Var, le sentiment général ici est que les autorités en ont peut-être fait beaucoup, des autorités qui ce soir renvoient la responsabilité à l'alerte rouge lancée par Météo France.
Olivier Martoc en direct de Marseille et dans le Var, la SNCF annonce la reprise des circulations TER ce soir. L'Église catholique va devoir faire face demain à des années de silence face aux abus sexuels. Un quart de siècle de scandale avant l'opération Vérité. 3000 pédocriminels recensés parmi des religieux. C'est le premier chiffre choc de la commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé. 250 victimes ont été entendues et parmi elles Christian Dubreuil, haut fonctionnaire retraité, rencontré par Rémi Brancato.
À 65 ans, Christian Dubreuil a toujours la gorge nouée quand il raconte les 9 mois d'abus sexuels dont il a été victime entre ses 11 et 12 ans par un prêtre du diocèse de Lyon.
Les faits sont anciens, le prêtre est mort, mais vous, vous mourrez avec ça.
Il lui faut attendre 30 ans pour parler publiquement, puis en 2010, il saisit la conférence des évêques de France. L'archevêque de Lyon, à l'époque, Philippe Barbarin, lui répond.
Pour qualifier les faits, il utilise ce terme d'injustice. Donc au lieu de parler d'un crime, il parle d'une injustice. Cette lettre est manipulatrice. J'ai déjà été manipulé par un prêtre pédophile et là, je suis manipulé par le primat des Gaules. Je trouve ça abject.
Christian Dubreuil attend donc une reconnaissance individuelle du crime subi par l'Église et pour ce haut fonctionnaire énarque, le rapport de la CIAZ fera l'effet d'une bombe, même si le nombre de victimes sera forcément sous-estimé.
Arriver à témoigner, c'est des dizaines d'années. J'ai toute la situation intellectuelle. J'ai fait 11 ans d'études après le baccalauréat. J'aurais pu X fois aller au pénal. Il est tellement difficile pour une victime de témoigner que les faits collationnés par la CIAZ ne seront qu'une partie minoritaire du problème.
Pour lui, ce travail est un mémorial pour les victimes d'abus. Il doit obliger l'Église à se remettre en cause profondément.
Rapport rendu public donc demain. Réécoutez aussi le reportage de Jérôme Jadot sur le sujet diffusé hier dans Interception sur franceinter.fr.
Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, les réseaux en panne.
Impossible de se connecter à votre messagerie depuis la fin de l'après-midi. Votre compte Facebook, vous le disiez, est inaccessible. Vous n'êtes pas tout seul, visiblement. Timur Özturk, bonsoir.
Bonsoir.
Donc les sites, les applications du groupe Facebook dans son ensemble connaissent une panne généralisée.
Oui, depuis à peu près 2 heures, vous ne pouvez plus vous connecter à Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, des applications et sites qui appartiennent tous aux géants californiens des réseaux sociaux. La panne concerne le monde entier, pas uniquement la France. Aux États-Unis, sur la côte Est, c'est actuellement la mi-journée. Des millions de personnes ne peuvent plus échanger par le biais de ces messageries. WhatsApp ou Messenger, très utilisés dans le monde du travail, entre collègues. Pratiques car elles permettent de discuter à plusieurs au sein de groupes où chacun peut lire les messages des autres. Facebook s'affaire à rétablir l'accès à ces plateformes. L'entreprise dit dans un communiqué « Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications. Nous travaillons pour permettre un retour à la normale au plus vite sans donner de détails sur l'origine de la panne pour le moment. »
Et ça fait mal déjà en bourse, hein, Timur, pour Facebook dont le cours chute de près de 6% ce soir après l'annonce de cette panne géante. Que peut faire l'Europe face à la flambée des prix de l'énergie? Les ministres de l'économie sont à Luxembourg aujourd'hui et chacun a sa solution. L'Espagne propose de se lancer dans les achats groupés. La France veut découpler le prix de l'électricité et du gaz. Des idées, les ministres n'en manquent pas. Et même si tout ça ne va pas se faire en claquant des doigts, c'est une bonne chose pour le français Bruno Le Maire.
Toutes les propositions sont les bienvenues. L'augmentation des stocks stratégiques, des stocks de réserve de gaz par exemple, c'est une proposition qui peut rassembler, je pense, assez rapidement un certain nombre d'États européens. La déconnexion des prix du gaz et de l'électricité, c'est une proposition qui prendra plus de temps à être mise en œuvre, mais elle est indispensable pour réussir la transition énergétique. Ça se fait pas en 5 minutes. La réponse aujourd'hui, c'est une réponse de court terme immédiate qui passent par soit des blocages de prix, soit par des baisses de fiscalité. Mais vous voyez bien que ces solutions de court terme ont un coût pour les finances publiques qui se chiffre en milliards d'euros, donc qui ne peuvent pas être des solutions de moyen ou de long terme. Les solutions de moyen ou de long terme se résument en un seul mot, indépendance énergétique de l'Europe. Plus de nucléaire, plus de renouvelables, plus de stocks. C'est ce qui doit garantir notre indépendance.
Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, avec Angélique Bouin. À l'étranger, l'Italie botte en touche. L'ancien président catalan, l'indépendantiste Carles Puigdemont, peut souffler. Recherché par la justice espagnole, qui entend le juger pour avoir organisé un référendum d'indépendance il y a 4 ans, il avait été arrêté en Sardaigne. La justice italienne a décidé de ne pas exécuter le mandat d'arrêt européen tant que la justice européenne ne se prononcera pas sur son immunité parlementaire. C'est la correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac.
Le premier concerné, Carles Puigdemont, s'est dit molto contento, très content. Donc, il a salué une décision juste sur son compte Twitter. Après la Belgique et l'Allemagne, qui ont considéré tour à tour que Puigdemont était un homme libre, c'est l'Italie qui évite d'exécuter le mandat d'arrêt, en tout cas en attendant que la justice européenne ne se prononce sur la levée de son immunité. Et dans l'esprit des indépendantistes, c'est la preuve, une de plus, que Puigdemont a raison et que la justice espagnole, qui veut le faire arrêter, a tort, seul contre tous. Le juge espagnol chargé du dossier, Pablo Llarena, n'en est donc pas à son premier camouflet. Il en redemande, dirait-on, réclamant l'arrestation de 2 amis politiques de Puigdemont, eux aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt, eux aussi députés européens et aussi présents en Sardaigne aujourd'hui. Entre les deux, le gouvernement espagnol, pressé par les indépendantistes avec qui il a ouvert un dialogue de préparer une loi d'amnistie, il voit en tout cas s'éloigner la perspective d'un procès contre Puigdemont qui aurait compliqué le processus. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
La meilleure baguette ne sera pas servie à la table de l'Élysée. C'est la récompense tous les ans pour le boulanger qui remporte ce prix. Sauf que cette année, le lauréat Makrama Krout est aussi accusé par un site d'extrême droite de messages critiques, voire hostiles à la France sur les réseaux sociaux, Maxence Lambrecq.
L'Élysée ne prend aucun risque. Après avoir annoncé il y a 10 jours sur Twitter que Makrama Krout livrera du pain au palais pendant un an, on a appris en effet tout à l'heure que les services de la présidence ne l'ont pas contacté et que cette livraison n'est qu'une tradition. Il n'y a rien de contractuel. Emmanuel Macron se fournira ailleurs. Même si, pour l'instant, les captures d'écran de son compte Facebook n'ont pas été authentifiées. Au départ, mon client a cru à un piratage, explique son avocate. Le fait, dit-elle, que des contenus partagés aient pu comporter des opinions anti-républicaines, haineuses vis-à-vis de la France, a immédiatement suscité son incompréhension. Comme bien des internautes, il a pu partager dans le passé des contenus sans en saisir toute la teneur. Ce week-end, le boulanger n'a pas osé aller récupérer son prix. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a aussi évité la photo. Ce soir, la fachosphère crie victoire. C'est elle qui a retrouvé ses publications en langue arabe et fait monter la polémique. Celui qui était présenté comme un modèle d'intégration arrivé de Tunisie sans papier, naturalisé après 17 ans derrière les fourneaux, est donc aujourd'hui soupçonné d'islamisme.
Et on parlait évidemment de la meilleure baguette de Paris. Allez, un bon film pour terminer. Le dernier de Christophe Honoré, Guermantes. C'est une plongée dans la vie de la troupe de la Comédie française. Tournée pendant l'été 2020 lors des répétitions de la pièce du côté de Guermantes, d'après l'œuvre de Marcel Proust. Le film est une fiction. Hein. Il raconte le quotidien d'une troupe de théâtre qui ne peut plus jouer son spectacle devant un public, mais qui fait le choix tout de même de continuer à répéter. Stéphane Capron.
La pièce du côté de Guermantes a finalement pu être présentée au public l'année dernière avec quelques mois de décalage à cause du premier confinement. Mais dans le film de Christophe Honoré, le spectacle est lui bel et bien annulé.
Pour l'instant, moi, j'ai reçu aucune instruction.
Il n'y a pas de première, on ne jouera pas.
À partir du moment où on sait que la représentation n'aura pas lieu, on ne va pas continuer à répéter.
Finalement, la troupe décide de continuer à travailler ce spectacle fantôme. L'idée du film est venue à Christophe Honoré pendant les répétitions de la pièce.
On a improvisé comme ça, sur une dizaine de jours, en fait, un film. Donc c'est assez étrange pour moi, parce que pour le coup, dans la même journée, je passe de cinéaste à metteur en scène de théâtre. C'est un film qui a encore un autre portrait de la Comédie française, qui a un autre portrait de Proust, et qui est, par la force des choses aussi, une sorte d'instantané de ces mois qu'on vient de vivre.
Guermantes est un bel hommage aux comédiennes et comédiens de la Comédie française, de la doyenne Claude Mathieu à Dominique Blanc, en passant par Laurent Lafitte, irrésistible, dont la seule obsession est de montrer à ses partenaires la bande-annonce de L'Origine du Monde qui depuis est sortie au cinéma. Le film mêle la fiction et la réalité, celle de la troupe, de son fonctionnement, parfois tournée en dérision. C'est une plongée savoureuse dans l'intimité de cette institution qui devrait ravir tous les fans de théâtre.
Guermantes de Christophe Honoré avec la troupe de la Comédie Française. C'est en ce moment au cinéma. Et puis demain, vous le savez, c'est une journée spéciale avec les Afghanes, toute la journée sur France Inter.
Et notamment dans le 18-20, bien sûr.
Et dans la matinale, invité exceptionnel, notez-le, le président de la République Emmanuel Macron sera l'invité de Nicolas Demand et Léa Salamé.
Allez, à demain, Hélène Philly, pour le journal et pour tout le reste aussi. On reste ensemble, nous, dans un instant, c'est le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous sur Inter, on va parler avec les jeunes et aussi des jeunes. Faisons place d'abord à Elodie Calac.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Elodie, encore des pluies orageuses sur le sud-est ce soir.
Oui, sur la région PACA et sur la Corse, Fabienne, des pluies orageuses parfois fortes qui circulent assez rapidement tout de même. L'activité s'atténue progressivement par l'ouest. D'ailleurs, la vigilance orange sera levée à 20h sur toute la région PACA et 22h sur la Haute-Corse. Donc d'ici là, soyez prudents.
Et sinon, un temps un peu plus calme demain pour le reste.
Oh oui, autour de la Méditerranée, ce sera plus calme, ensoleillé même le matin, alors très nuageux l'après-midi, mais seule la Corse aura droit à quelques averses orageuses l'après-midi. En revanche, on a de bonnes pluies et du vent qui vont balayer le pays. Alors elles arroseront d'abord l'ouest jusqu'au nord de la Seine le matin, puis les régions allant des Pyrénées à Rhône-Alpes et au nord-est l'après-midi. Et puis après ce passage pluvieux, c'est un ciel plus variable qui s'installera avec des éclaircies et des averses qui seront plus nombreuses et orageuses entre la Normandie, la région parisienne et le nord de la Seine. Et puis pour ce qui est des températures, comptez 15 à 20 degrés demain après-midi et jusqu'à 26 pour la Corse.
Et Elodie Calac de Météo France, merci beaucoup.